BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis ensuite, vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Belaouda Abdelhaim avec sa moisson d'études du monde entier. Et puis notre bibliothécaire du jour qui s'attaque à un Everest de la littérature par la face nord, hein, vous allez voir, à la recherche du temps perdu, mais version économique et sociale. Mais tout de suite, on démarre évidemment avec nos auteurs. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver la librairie sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Nos auteurs tout de suite. Je vous cite cette phrase célèbre de Margaret Thatcher. Oh, elle en avait plein, des phrases célèbres. « Ne me dites pas ce que je dois faire, je le sais déjà, dites-moi plutôt comment. » Et là, c'est au plus intime du comment que nous allons consacrer cette librairie de l'écho. Alors, on connaît tous les grands défis à relever, hein, là où on doit arriver, climat, technologie, inclusion. On connaît le point de départ, évidemment. C'est maintenant. Et puis, quand même, on réalise que quand on nous dit tout ça va coûter des fortunes, en réalité, on se rend compte que il y a de l'épargne et qu'il y a du carburant dans la voiture. Mais la question, c'est quels ressorts intimes peuvent finalement décider chacun d'entre nous de tourner la clé de contact et d'avancer, d'agir seul ou collectivement. Eh bien, c'est vraiment au plus intime de tout ça que nous allons essayer d'explorer avec nos deux invités. Carlo Pourasanta, bonjour.
Bonjour.
Carlo, vous avez été le dirigeant des filiales de IBM et Microsoft en Europe, Microsoft Italie, donc IBM France. Aujourd'hui, vous êtes vice-président de Ion, c'est de l'ingénierie logicielle, et vous publiez L'élan décisif aux éditions du Cherche Midi. Gilles Bonenfant, bonjour.
Bonjour.
Gilles, vous êtes le président du cabinet de conseil Eurogroupe. Et alors, vous avez piloté un ouvrage collectif autour de la notion d'engagement aux éditions EMS, Management et Société. Et on va commencer avec vous, parce que finalement, c'est peut-être l'étincelle, l'engagement. C'est peut-être le point de départ de tout ce qu'on a dit, si on veut faire toutes les grandes mutations, toutes les grandes transitions dont on a parlé. Juste, comment vous définissez, vous, l'engagement?
Ah ben autour de trois verbes. On l'a mis dans la page de couverture de l'ouvrage qu'on a publié à plusieurs. Agir, incarner, transmettre. Trois verbes d'action. Et d'ailleurs, on définit... On a souhaité que cet ouvrage soit engagement avec un S. Mmh. Eurogroupe a fêté ses 40 ans cette année. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qui nous titille un tout petit peu dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on entend quand on lit la presse. Et puis finalement, on s'est dit, mais l'engagement, est-ce qu'il est là? Les engagements pluriels sont là. Et contrairement à ce qu'on entend en ce moment, on n'est pas dans une vague de flemme, je ne crois pas. On est dans une vague d'engagement multiple. Il faut les comprendre. Il faut les additionner, il ne faut pas les opposer.
Alors justement, la première partie de votre livre, très historique, montre que la notion d'engagement, elle évolue quand même au cours du temps.
C'est pour ça que j'y mets un S. Parce qu'on avait un regard très professionnel. Enfin, dans les générations qu'on représente, on se disait ça, puis on ne regardait pas ce qu'il y avait aux côtés. Aujourd'hui, quand on regarde toutes les générations, les engagements sont multiples. Et il est faux, parce que vous parliez des transitions tout à l'heure. Si on ne comprend pas le monde, si on n'agit pas, on parlera d'innovation et de digital peut-être tout à l'heure. Si on ne comprend pas ce monde-là, il nous échappe. Et donc, les engagements sont multiples,
mais
sont variés, sont
profonds. C'est facile à prendre. Vous voyez, la question, c'est qu'est-ce qui fait que chacun, dans son travail, dans son quotidien, va décider, finalement, à faire avancer tout ça? Et vous reprenez le travail de Gallup, par exemple, qui est tout à fait déterminant. Et alors là, pour le coup, dans l'entreprise, ce qu'on voit, c'est que c'est finalement le boss d'une équipe, le patron, qui fait l'engagement ou pas de l'équipe, quoi. De 20 à 70% de la capacité d'engagement et de la volonté d'engagement de son équipe dépend finalement du manager.
Oui, mais ça n'a pas changé au travers du temps, hein. Ça n'a pas changé aujourd'hui. On se retrouve dans cette logique-là. La vraie innovation, peut-être, complémentaire, c'est que l'utilité devient peut-être un petit peu plus sur le devant de la scène, sur l'engagement, que simplement une logique de temps passé. L'utilité du temps que je passe et le multiple engagement. Et quand on regarde, et ça touche toutes les générations, en ce moment, encore une fois, je le disais, on parle beaucoup de est-ce que les salariés sont plus flemmards qu'avant? Je crois pas. On En plus, on oppose des générations. Je crois qu'ils sont engagés différemment. Ils ont une gestion différente. Ils ont une notion de l'acte de l'engagement, de l'utilité. Beaucoup utilisent le mot sens qui me semble un peu galvaudé, mais d'aller chercher finalement ce à quoi je vais servir. Et quand on regarde la période qui s'est écoulée, pourquoi on a voulu faire cet ouvrage-là à la sortie de ces deux ans, c'est parce qu'on a tout entendu sur l'engagement dans cette période-là. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans la période chez nos clients, président d'un cabinet de conseil, donc à la fois chez nous et chez nos clients, j'observe, dans cette période si difficile, l'engagement n'a pas manqué. Sinon, d'abord, l'économie n'aurait pas tenu, la santé n'aurait pas tenu, puisqu'on parle du monde de la santé aussi. Donc l'engagement est là, il est fort, il est puissant, il est multiple. Et le manager, puisque vous faisiez référence à ça, Emmanuel, le manager doit apprendre à gérer ou à manager ou rendre compatibles ces multiples engagements. Mais s'il reste que sur une filière d'engagement, je pense que là, il va dégénérer.
Est-ce que l'engagement, ça s'apprend ?
Moi, je crois au compagnonnage dans l'engagement.
Ouais.
C'est un mot que j'utilise beaucoup. Je crois beaucoup à l'exemplarité, je crois beaucoup à la démonstration, donc au compagnonnage. Donc je pense que oui, ça s'apprend, ça s'observe. En revanche, une grande différence par rapport à peut-être avant, c'est que avant on le disait, je suis engagé. Moi je crois qu'aujourd'hui ça s'observe. Je crois qu'on peut pas dire je suis engagé. On observe qu'on est engagé. Et le côté un peu dictatorial, qui disait voilà, moi je suis plus engagé que vous parce que je suis plus présent que vous, parce que je donne plus d'heures que vous. Non, c'est pas ça qu'on regarde. L'engagement, ça se mesure pas, ça s'observe. L'engagement, ça se démontre. Oui, je crois que ça se démonte. Et donc ça s'apprend, mais par une forme de mimétisme, par une forme de compagnonnage, par une démonstration, par l'action, par l'incarnation et par la transmission. C'est pour ça qu'on y tient beaucoup.
Sans engagement, vous écrivez, il n'y a pas d'action collective.
Ben oui. Mais un sportif, même s'il fait un sport individuel, il ne réussit pas s'il n'y a pas un dispositif, je l'appelais dispositif collectif, autour de lui. Un chef d'entreprise, il ne réussit pas. Un start-upper, il ne réussit pas s'il n'y a pas un écosystème autour de lui qui l'amène global. Prenez les associations. Dans notre ouvrage, on a aussi interrogé des gens dont on est proche, qui ont des actions. Mais ils ne réussissent pas s'il n'y a pas un collectif autour.
Vous dites quand même, il n'y a pas de désengagement, mais en même temps, quand on regarde ce qui se passe sur le marché du travail, quand on regarde alors cette histoire de grande démission qui a pas vraiment concerné l'Europe, qui a vraiment concerné les États-Unis, ces gens qui ont arrêté de travailler, le fait que vous avez de moins en moins de confiance dans toutes les institutions pour justement essayer d'avancer, vous dites il n'y a pas de désengagement. Alors j'aimerais vous croire avec les gens peut-être qui sont insérés au quotidien dans la vie active, qui sont formés, etc. Mais quand même, est-ce que il n'y a pas une partie de la société qui a décroché et qui n'est plus motivée?
Une partie de la société qui a décroché sur certains sujets, certainement. Mais il n'y a jamais eu autant, en France en l'occurrence, les dernières statistiques sont sorties, de gens qui sont engagés dans des modèles associatifs, qui donnent du temps gratuit. Ça prouve bien que les gens sont engagés. Ça prouve bien que les gens créent une valeur, qui n'est pas forcément la même valeur que leurs aînés, mais qui créent une valeur. Et très souvent, c'est en complément d'une valeur professionnelle, d'une valeur éducative, d'une valeur sportive. Je ne crois pas. Et puis, je pense qu'il ne faut pas mélanger les cultures. Il y a les cultures anglo-saxonnes, et ce qu'on voit de notre côté de l'Atlantique, et ce qu'on voit de notre côté. Et là, je crois qu'il y a une grande différence. Et la grande démission décrite, telle qu'elle est décrite de l'autre côté de l'Atlantique, je ne sais pas si vous avez regardé les statistiques de ce qui s'est passé sur le début d'année en France. C'est un des journalistes économistes connus qui l'a dit, c'est pas moi, 65% de ceux qui ont quitté leur employeur sur les 4 premiers mois de l'année le regrettent. Ça fait 3 regrets, l'employeur qui a perdu son collaborateur, le collaborateur qui n'est pas content d'avoir bougé, puis l'employeur qui l'a récupéré qui dit il n'est pas heureux. Donc il faut prendre un peu de hauteur là-dessus. Il y avait le même nombre en Europe, en France en l'occurrence, de démissions en 2002 qu'il y a eu en 2008, qu'il y a eu en 2020 sur les 4 premiers mois de l'année.
Alors, vous avez évoqué la différence entre les États-Unis et le monde anglo-saxon et l'Europe, mais plus largement, vous dites dans votre livre, la notion d'engagement est très différente selon les pays.
Ben oui, l'engagement au travail, je vais prendre des choses qu'on connaît tous, l'engagement d'un collaborateur marocain et le rapport à la hiérarchie n'est pas le même culturellement que le rapport au travail d'un collaborateur italien, pardon, aux États-Unis. Regardez l'engouement qu'il y avait aux États-Unis sur les Google et autres. Tout le monde voulait aller dans la Silicon Valley, la cantine était gratuite, il y avait tout ce qu'il fallait. Puis d'un seul coup, il y a eu cette Covid où tout le monde est parti chez soi. Puis d'un seul coup, plus personne ne veut revenir. Et donc ces grands employeurs, vous en connaissez certains mieux que moi, mais quand même, quand j'observe, aujourd'hui, ils disent « Ah, mais si vous ne revenez pas, il va se passer ça. » Donc, on est dans un monde culturel qui n'a rien à voir. Et je crois que le monde latin a quelque chose à prouver aussi dans l'engagement. Dans l'engagement sur le temps, dans la confiance au temps. Alors après, et vous avez raison de le souligner, Emmanuel, le rôle du manager est encore peut-être plus crucial que jamais dans la démonstration, dans l'accompagnement, dans la valeur prouvée, qui n'est pas une valeur déclarative, ça c'est une vraie différence avec avant, c'est une valeur de preuve. On ne peut pas dire je prends soin de mes collaborateurs. On doit prendre soin de ses collaborateurs. On doit trouver ce temps gratuit auprès des gens pour les former, pour les accompagner, pour les évaluer. Et c'est vrai que le monde qu'on vient de traverser au travers d'outils magiques qui nous ont permis de travailler ou d'échanger, que sont Teams, Zoom et autres outils, il manque un peu de 3D dans tout ça. Et la culture anglo-saxonne se prête peut-être plus à ce mode de transaction que la culture latine, qui est quand même une culture éminemment relationnelle. Et dans le travail, dans le rapport au travail, quand on travaille avec des différentes cultures étrangères, le rapport au travail et à l'engagement et à l'autorité n'a rien à voir.
Alors justement, Carlo Porracenta, vous, quand même, votre livre, il commence sur un ton assez pessimiste au sujet de l'Europe. Vous êtes inquiet sur notre retard, par exemple, en matière d'innovation, notamment, et de technologie. Et pour faire le lien avec cette idée d'engagement qui est quand même aujourd'hui l'étincelle un peu déterminante, pour nous faire avancer, vous dites en Europe, globalement, il y a trop de scepticisme. Il y a sans doute trop de réglementation, de temps passé à établir des règles du jeu, et malheureusement pas assez d'action, donc pas assez d'engagement. Est-ce que c'est un comportement qui peut nous être fatal ?
C'est un peu le propos de mon livre, parce qu'il commence avec un peu de pessimisme, mais il se conclut avec de l'optimisme. Mais oui, il y a une menace de fatalité. Je vais expliquer peut-être en quelques mots pourquoi. Déjà un chiffre, qui pour moi est le chiffre le plus parlant. Le PIB par personne, c'est-à-dire ce qu'on produit tous ensemble en Europe, dans l'Union européenne, pour être plus précis, est égal à 34 000 euros par personne depuis 10 ans. Il n'a pas bougé d'un centime, peut-être de quelques centimes, mais il est linéaire.
Ouais.
Dans la même période, les États-Unis sont passés de 43 000 à 67 000. D'accord ? Ouais. Même période, même décennie. Les Chinois, ils sont passés de 2 000, très bas, vous allez me dire, mais enfin, ils sont quand même 1,5 milliard, donc c'est une économie en développement. Ils ont multiplié par plus que 5. Ils sont déjà à 11 000. D'accord ? Donc, le propos est simple. La technologie, ce qu'on appelle maintenant intelligence artificielle, qui est un mot un peu qui exclut le plus grand nombre parce qu'on pense que c'est juste pour quelqu'un. L'intelligence artificielle, c'est juste l'expression ultime de la technologie d'aujourd'hui. Et j'aimerais bien que les Européens, c'est-à-dire les citoyens, mais aussi ceux qui gouvernent et surtout ceux qui dirigent les entreprises, comprennent que cette technologie-là n'est pas une technologie qui vient s'ajouter aux autres ingrédients de l'entreprise. Mais ça doit devenir, et il y en a d'autres qui l'ont compris, aux États-Unis et en Chine, doit devenir l'ingrédient principal pour faire la recette. C'est la différence, permettez-moi Emmanuel, entre une révolution industrielle et une technologie qui vient s'ajouter à un monde.
Oui, mais voyez, c'est ça qui est inquiétant, justement, dans votre livre. Alors, du moins dans le début.
Au début, ouais.
C'est qu'en fait, on se dit, mais finalement, même si on jouait à niveau égal en termes d'innovation technologique avec les États-Unis, avec la Chine, ce qui n'est déjà pas le cas, rien que pour des raisons quasiment culturelles que vous évoquez sur justement trop d'inaction, trop de passivité, ben on se dit que finalement, même si on avait ces technologies, on se ferait quand même distancer par les États-Unis et par la Chine.
Oui, mais alors là par contre,
je vais venir à l'exemple de l'Italie après.
Oui, on peut faire l'exemple de l'Italie, mais moi je suis un optimiste et je pense qu'on peut y arriver et je vais vous dire pourquoi. Quelques éléments. D'abord, la tech ne représente aujourd'hui que 4% de ce fameux PIB du monde. D'accord ? Donc c'est beaucoup, mais c'est tout petit en fait. Après, on va voir comment ils bougent, comment les entreprises de la technologie bougent et comment il faut les regarder pour comprendre. Mais en tout cas, ce n'est que 4%. Donc, quand on regarde la transformation du monde, en fait, il y a 96% de transformation à faire. C'est ça mon propos. Et l'Europe, il ne faut pas oublier que dans les trois révolutions industrielles précédentes, donc la vapeur, l'électricité, l'automatisation des processus, nous avons été à l'avant-garde. Nous avons été les leaders dans la plupart des industries du monde et pendant la plupart du siècle dernier. Donc, la capacité que nous avons de comprendre ces métiers est juste gigantesque. Maintenant, mon propos est le suivant. Si la technologie, on a raté peut-être un virage de l'intelligence artificielle au début, ça ne veut pas dire qu'on va attendre de perdre tout le reste.
Ah, en même temps, vous dites, le retard qu'on prend au début, on a toujours du mal à le rattraper.
Oui, mais le 96% est à faire. Donc maintenant, il s'agit d'aller mettre l'attention et se focaliser sur qu'est-ce qu'il faut faire comme innovation, non pas pour rattraper ce qu'on n'a déjà pas fait, mais pour aller faire l'innovation qui va se faire.
Oui, mais
il y a plein
prenez...
d'innovations qui se fera dans le futur.
Alors, vous prenez l'exemple d'un pays que vous connaissez bien, Carlo Pirasanta, l'Italie. Et là, vous parlez pour l'Italie, vous êtes quand même, vous constatez le décalage entre les capacités de ce pays et ses piètres performances économiques. Et vous parlez pour l'Italie d'un potentiel inexprimé.
Oui.
Mais on a envie de dire que c'est le cas pour presque toute l'Europe, finalement.
C'est le cas pour toute l'Europe. C'est le cas pour toute l'Europe et c'est pour ça que dans mon livre, j'invite à déjà à comprendre quelques principes clés de cette révolution industrielle. Un, le fait que c'est une révolution et donc il faut reconcevoir tout sur la base des données et des algorithmes. C'est très difficile intellectuellement. Ça fait même peur. Parce que quand on dit artificiel, on considère que c'est contre les femmes et les hommes. Ce n'est pas contre les femmes et les hommes. C'est quelque chose qu'on maîtrise et qu'on construit. Mais par contre, c'est très puissant et il faut le manipuler pour que les femmes et les hommes fassent leur métier de façon différente. Donc, premier concept, il faut reconcevoir chaque opération de chaque industrie et dans chacune des organisations. Premier point. Deuxième point, vous l'évoquiez tout à l'heure, le sujet de l'hyperscale. Oui, il y a une prime ou un avantage à ceux qui innovent plus rapidement que les autres. L'exemple que je fais, c'est Amazon qui a inventé le cloud il y a 15 ans. Et pour l'instant, Microsoft, Google, tous les autres, ne les ont toujours pas rejoints. 15 ans après, et malgré les investissements pharaoniques de chacun. Pourquoi ? Parce que quand tu as plus de données et plus d'infrastructures, on dit à l'échelle, tu apprends les problèmes et tu résous les problèmes plus vite. Et donc, tu restes avec un avantage compétitif qui perdure dans le temps. Donc, sur les autres industries, c'est ça qu'il faut aller faire. Aller prendre de la masse de données, de la masse de processus transformés et faire en sorte qu'on puisse les opérer en Europe.
Comment on fait quand on met beaucoup moins de moyens que les autres? Parce qu'il y a un moment en matière d'innovation, ce qui compte, c'est pas les pourcentages de PIB, vous voyez, c'est juste combien on met de milliards sur la table. Donc quand vous voyez que les plus grands programmes européens sur presque tous les sujets d'innovation sont inférieurs à ce que aux investissements que réalisent les 5 GAFA par exemple à chaque fois, on se dit mais comment on peut faire pour y arriver, quoi.
Alors, comment on peut faire ? On peut faire avec une politique industrielle qui n'est pas un gros mot, qui devrait redevenir à la mode, à mon goût. C'est mon sentiment. Moi, quand j'étais jeune, je le dis dans le livre, je regardais la France, j'avais une admiration pour la France et la politique industrielle que ce pays a été capable de faire dans les années 70, 80, 90. Aujourd'hui, je ne vois pas la même force pour définir le futur. Et oui, on ne peut plus le faire au niveau d'un pays, tout seul. Il faudrait le faire au niveau de l'Europe. Et je vous fais un exemple. Je vous fais un exemple que j'ai fait dans le livre. Comment est-ce possible de trouver, et on a bien fait, hein, mais comment est-ce possible que l'Europe trouve 800 milliards pour aller résoudre un problème, laissez-moi dire, grave, certainement, la pandémie, mais temporaire? Parce qu'une pandémie, on sait que il y a des vaccins, ça se normalise, on le remet sous contrôle. Donc, pour un problème, entre guillemets, temporaire ou éphémère, qui a duré 2 ans, on trouve 800 milliards. Et pour un problème comme le changement climatique, qui n'est pas éphémère, et qui, chaque année, empire, comment c'est possible qu'on ne trouve pas l'argent pour résoudre ce problème? Et vous savez combien d'argent on parle? De 3,2 trilliards, c'est-à-dire 4 fois plus que l'argent qu'on a mis pour résoudre l'équation économique de la pandémie.
Non, mais c'est pour ça que c'était mon propos. C'est-à-dire que quand on regarde finalement l'épargne mondiale, elle est très abondante et elle peut largement financer. Après, c'est une question de réorientation.
Il faut avoir une politique qui oriente sur 2-3 choses qui vont changer le destin économique et industriel de l'Europe.
Justement, j'aimerais bien qu'on arrive au moment climax de votre livre, en fait, vous savez, le moment où tout bascule, où vous retrouvez espoir, et que vous, j'aimerais bien que vous nous racontiez donc ce qui se passe finalement dans ce fameux Digital Venice, c'est-à-dire qu'en gros, vous il y a un événement digital à Venise en 2014 qui réunit tout un tas de d'investisseurs, d'entrepreneurs, et là,
de jeunes,
ça change votre vision du monde. Mais qu'est-ce qui se passe à Venise en 2014?
Ça m'a donné un espoir inébranlable dans le futur, avec de l'optimisme et grâce aux jeunes. En fait, c'est une idée simple. Donc, je venais d'arriver en Italie en tant que country manager pour Microsoft, et l'Italie allait avoir la présidence du Conseil européen pendant les 6 mois en 2014. Et donc, je propose au gouvernement de l'époque, c'était Enrico Letta, de faire un événement. Pour la première fois, une présidence du Conseil européen pouvait commencer avec un événement sur le digital. Ça n'était jamais arrivé en Europe. Et donc, il me dit oui. Super. Donc, ensuite, Matteo Renzi prend la place d'Enrico Letta. Bon, ça arrive en Italie, ça arrive tous les 18 mois à peu près. Mais malgré ça, le nouveau Premier ministre, il décide de garder cet événement. Donc, on fait l'événement 2 jours. Un jour organisé par un certain nombre d'entre nous, donc des entreprises de l'innovation, et le lendemain par le gouvernement, avec tous les ministres du digital qui venaient de 27 pays. Et nous, on a mis ensemble dans une salle, pendant une journée, 150 jeunes start-upers, chercheurs universitaires, professeurs, etc. On leur avait donné les thèmes. Donc, il y avait 6 thèmes sur lesquels il fallait phosphorer. Le résultat de cette journée de travail, pour moi, a été époustouflant. Si on lit le document aujourd'hui, il y a des idées encore aujourd'hui, 8 ans après, pour faire des start-up, pour faire de l'innovation dans une entreprise, dans ces domaines, la santé, les transports, etc. Et je me suis dit, si en un jour, 150 personnes, certainement passionnées et cultivées, mais 150 personnes, on n'est pas en train de parler de 450 millions de personnes que nous avons en Europe, ils arrivent à trouver des idées si bonnes, et avec une cohérence, ils se connaissaient pas, ils venaient de 23 pays différents des 27. Ils ont travaillé très bien ensemble. Mais moi, ça me donne un espoir gigantesque. Donc, je dis toujours aux entrepreneurs, aux responsables d'entreprise, donnons du pouvoir à ces jeunes-là. Quel est le contexte que nous sommes en train de créer dans les entreprises pour écouter des filles et des garçons de 23, 25, 28, 32 ans pour faire l'innovation dans l'entreprise? Très peu. On est très hiérarchique en Europe. On a des boîtes en pyramide. Aux États-Unis, une start-up, c'est fait par des gens de 23 ans. Et pourtant, aujourd'hui, TikTok, en 3 ans, ouais, non seulement ils ont conquis le monde, bon, c'est des Chinois et c'est pas des Américains, mais bref, ils ont conquis le monde, et ils ont bousculé une entreprise comme Facebook, qu'on pensait hégémonique dans son domaine. Donc, l'innovation ne bouscule pas seulement les entreprises du siècle dernier, ça bouscule même les champions du digital. Donc, d'où mon espoir. Parce que comme 96% de la transformation digitale doit être encore faite, alors si on la fait vite et on a...
Parce
et
que
on
vous
a
dites une... quand même, je veux dire, on a allez, maximum 10 ans pour se réveiller, quoi.
On a une dizaine d'années pour se réveiller, oui. Parce ouais, que ceux qui ont la technologie et le pouvoir financier pour faire de l'innovation, bah, ils peuvent... ils admirent, ils regardent une industrie verticale, et ils peuvent très bien se dire, et ils le font déjà, bah, moi je peux faire mieux que ça. Je peux faire banque mieux que ce que je vois. Je peux faire assurance mieux que ce que je vois.
Et ils
peuvent aller très vite.
Et donc cet élan décisif, puisque c'est le titre de votre livre, qu'est-ce qui peut vraiment le déclencher? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour vraiment qu'on décolle?
Se rendre compte que c'est une révolution, et donc ne pas faire de la technologie juste pour améliorer une opération. Utiliser la technologie pour améliorer un peu une opération, ça ne sert à rien. Transformer complètement l'opération grâce aux données, aux algorithmes. Ça, c'est le premier point. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme force inégalée? C'est que nous avons une culture, des processus et une masse de données sur chacune des industries qu'on maîtrise depuis 150 ans, qui est supérieure à tous les autres. Prenons l'énergie. On a les plus grands champions de l'énergie du monde en Europe. On a les plus grosses entreprises d'énergie. Si ces entreprises décident, je sais pas, de résoudre un problème sur l'énergie. Par exemple, il y a un problème maintenant dans le monde de l'énergie, c'est le short-term forecast. C'est-à-dire savoir qu'est-ce qui se passe sur le prix du gaz demain matin. Personne ne le sait. D'accord? Bah, si 6 entreprises européennes de l'énergie décident de faire une application et tous utiliser la même application, est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un dans le monde qui a plus de compétences sur l'énergie, plus de moyens, plus de données pour faire la meilleure application, donc en faire un standard mondial pour la prévision du prix du gaz demain matin? On peut faire ça. c'est de l'innovation appliquée à des métiers que nous connaissons et dont nous possédons toutes les données à ce jour. Par contre, il faut aller vite.
Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres, donc Engagement, Agir, Incarner, Transmettre, sous votre direction, Gilles Bonenfant, c'est aux éditions EMS, Management et Société, et puis L'élan décisif de Carlo Pourasanta aux éditions du Cherche Midi. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaoud Abdelhaïm pour son tour du monde des études. Et puis notre bibliothécaire du jour, Alexandra Paget. Alors écoutez, je ne sais pas quel est son état mental. Elle s'attaque à un monument, un Everest. Et oui, elle va nous faire une lecture économique de La recherche du temps perdu de Proust. Vous allez voir. Mais tout de suite, on démarre avec nos critiques. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et le critique attitré de la Société d'économie politique. Allez, on commence avec ce qui est un petit événement, Christian Chavagneux, qui est la publication en bande dessinée du livre de Thomas Piketty, Capital et idéologie, aux éditions du Seuil.
Ouais, c'est franchement, que vous partagez ou pas les idées de Thomas Piketty, il y avait un énorme défi à reprendre. C'est surtout le premier livre, hein, Thomas Piketty, pour le transformer en bande dessinée. Et franchement, c'est excellent. L'adaptation qui a été faite des travaux de Piketty en bande dessinée pour rendre ça accessible à tout le monde est vraiment excellent. On prend un personnage fictif, hein, donc on démarre au début du XXe siècle, un monsieur assez riche. On est en plein débat sur l'instauration de l'impôt progressif ou pas en France. Ouais. Et on vient de mettre en place l'impôt sur les successions. Et puis on va faire un petit retour en arrière pour savoir d'où vient sa fortune. En fait, elle vient de l'esclavage. On fait comme ça des petits focus. Bien évidemment, on ne peut pas vous dire, je vais lire la BD comme ça, je vais pouvoir me dispenser de lire l'ensemble du travail de Thomas Piketty, parce qu'on se focalise sur la France et on revient sur quelques focus. La source de la richesse en France au début, fin 19e, début 20e siècle, n'est pas que l'esclavage, mais là on fait un focus sur l'esclavage. Et petit à petit, la Révolution française ne change rien. Fin 19e, début 20e, on est avec des niveaux d'inégalité en France absolument très, très, très élevés. Et Claire Allais au scénario et Benjamin Adam au dessin ont réussi à nous faire suivre cette famille. Donc on va aller de génération en génération jusqu'à aujourd'hui et on va repasser tous les thèmes traditionnels chez Thomas Piketty. Donc le fait que l'impôt progressif, alors quand je dis impôt progressif, tout de suite, c'est expliqué. Les déciles, qu'est-ce que c'est? C'est expliqué. Le ruissellement, c'est expliqué. C'est un ouvrage qui est une dimension historique, mais aussi une dimension pédagogique extrêmement forte. On va passer l'entre-deux-guerres, le rôle des guerres dans la réduction des inégalités, le rôle des impôts. Quand même, j'ai dit sur la France, mais un gros morceau sur Franklin Roosevelt pour savoir ce qu'il a fait aux États-Unis. Les 30 Glorieuses, années 70, justement, arrivent les théories du ruissellement qui disent qu'il faut baisser les impôts sur les plus riches, ça va profiter à tout le monde. Ben non, on s'aperçoit après que ça ne profite pas à tout le monde. Bref, on suit de génération en génération, du 18e siècle jusqu'à aujourd'hui, une famille fictive, mais qui va nous permettre de développer toutes les thèses de Thomas Piketty. On retrouve bien évidemment tout ce qu'il aime bien, c'est-à-dire le fait que les partis de gauche ont abandonné les plus pauvres pour devenir des partis diplômés, le fait qu'on a baissé trop les impôts sur les plus riches, le fait qu'on a baissé l'investissement public dans l'éducation. Et puis un chapitre final reprend l'essentiel des propositions que met Thomas Piketty dans le débat pour lutter contre les inégalités. Bien sûr, on retrouve la fiscalité, on retrouve le fait qu'ils souhaitent non pas un revenu de base, mais un patrimoine de base pour tous les jeunes, le fait qu'il faut donner plus de place aux salariés dans les conseils d'administration, etc., etc. Donc, une adaptation que je trouve très réussie, surtout du premier livre de Thomas Piketty, en bande dessinée.
Jean-Marc Daniel.
Alors, moi, je serais plus réservé. Je comprends le défi qu'il y avait derrière tout ça. Je reconnais la fidélité, et c'est peut-être ça le défaut du livre, d'être trop fidèle au livre de Piketty. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est un peu trop qui trop embrasse mal étreint. Je trouve que ça finit par être indigeste. Il y a une accumulation de dessins, d'accumulation de titres, sous-titres, bulles. On a du mal à suivre. Et on se perd un peu dans la digression, Christian a dit, ah oui, c'est sur la France, mais effectivement, on parle de l'esclavage, on parle de Roosevelt, on assiste à l'assassinat de Calmette par Madame Caillot, dont on ne sait pas, d'ailleurs, on ne nous dit pas que ça se termine par son acquittement. Je rappelle qu'à l'époque, le fait d'assassiner le rédacteur en chef du Figaro n'était pas jugé comme étant un crime susceptible de vous envoyer en prison. Et donc oui, absolument. Non, les circonstances sont décrites, le résultat n'est pas au rendez-vous. Mais, et donc, je pense qu'il aurait fallu y avoir un petit travail, y compris d'ailleurs en liaison avec Thomas Piketty, pour alléger un peu le sujet, pour réduire le nombre de périodes, pour aller plus à l'essentiel, parce que ça finit effectivement par rapport à une bande dessinée qui n'est pas un essai. Un essai, on revient en arrière, on réfléchit. Là, c'est censé être quelque chose d'assez aéré, d'assez facile d'accès, et en fait, c'est assez compliqué et assez difficile à manipuler. Donc, je salue le travail, je salue le défi, je pense pas que le résultat soit totalement à la hauteur des espérances des auteurs.
Ouais, moi, j'étais séduit par le... Je trouve que quand on le feuillette, on tombe sur des choses comme ça qui sont vraiment... c'est extrêmement bien fait. Et après, moi, j'ai eu du mal avec... toutes les vignettes sont un peu mises sur le même plan. Et moi, c'est ça qui m'a... J'ai trouvé que ça ne facilitait pas la...
Ouais, on est inondé un peu par les gravures, les mais images.
C'est un très bel objet.
On suit le fond de manière tout à fait
rationnelle. Absolument. Et c'est vrai que c'est un
bel objet.
Ouais, c'est agréable à feuilleter.
C'est un bel objet.
Et je suis d'accord. Mais moi, j'ai trouvé qu'à la limite, c'était plus simple à picorer qu'à lire du début à la fin. Allez, on passe à votre choix, Jean-Marc Daniel. Alors vous, décidément, vous êtes fasciné par cet univers des crypto-monnaies, entre autres, des NFT, ce monde virtuel, le métavers, etc. Et donc vous avez choisi Les criminels de la crypto-monnaie par Andy Greenberg aux éditions Saint-Simon.
Alors vous savez que j'ai quelques réserves sur tout ce monde-là et le livre était là pour plutôt me conforter dans mes réserves. Donc Andy Greenberg, c'est qui ? C'est un journaliste américain qui a, à partir d'une affaire, qui était d'une affaire de vente de drogue sur le dark web, le dark internet, et qui est une affaire qui a défrayé la chronique aux États-Unis, qui a essayé de démonter comment effectivement le crime organisé utilisait les crypto-monnaies pour échapper à la police et à toutes les agences américaines, notamment au fisc, qui pourchassent les criminels. Alors, Andy Greenberg a été journaliste à Forbes à un moment donné. Le style est un peu un style comme toujours dans ces livres d'américains, c'est-à-dire il se raconte autant qu'il raconte des histoires. il prend un petit déjeuner avec, à la fin il prend un café avec une des cryptographes spécialistes effectivement du dark web. Donc ça, c'est un côté quelquefois un peu artificiel. Je souligne la traduction, moi qui suis en général assez sévère avec les traductions, là la traduction est d'une très grande qualité, elle est irréprochable. Et alors le livre est fascinant. Passionnant, inquiétant, parce que se démontre de ce monde qui utilise les crypto-monnaies pour construire une sorte de monde parallèle assis sur la criminalité avec des acteurs qui sont des acteurs avec des motifs qui sont extrêmement divers, parce qu'il y a les criminels traditionnels, ouais. Il y a aussi toute une engeance de gens qui sont fascinés par le combat, plus ou moins anarchiste, plus ou moins libertarien, et qui considèrent que c'est un moyen d'échapper à l'État, ouais. Au Léviathan et tout ça. Il y a un portrait d'un personnage qui s'appelle Ross Ulbricht, qui a monté un trafic de drogue et qui, à la fin de son procès, dit, mais je suis pas un sociopathe, je suis un combattant, je n'ai vendu de la drogue que pour vous rendre libre. Le gars est total. Et il cite Von Mises en disant, voilà, mon combat, c'est le même que celui de l'école autrichienne. Donc, vous avez ces gens-là, vous avez les francs escrocs, vous avez les bandits de grand chemin qui sont là-dessus, vous avez des policiers. Alors, il y a un portrait de deux policiers dont on n'arrive pas à savoir si ils ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont totalement ripoux, comme on dit maintenant, ou s'ils étaient sur ordre, infiltrés dans le système pour essayer de découvrir ce qui se passait. Et surtout, ce que montre assez bien le livre, c'est qu'en fait, au travers de cette histoire de blockchain, il y a énormément d'informations. La seule information, normalement, qui est protégée, c'est l'anonymat des gens qui sont sur le réseau. Ouais. Mais toutes les transactions sont enregistrées. Si vous avez un peu de talent de cryptographe, vous arrivez assez vite à accéder à toutes ces informations. Et donc, le livre est un livre qui dit qu'on va véritablement... Le système est en train d'échapper au contrôle véritable de ceux qui l'ont créé initialement. Alors, il y a des personnages positifs. Il y a deux portraits que je trouve assez fascinants. Donc, il y a la cryptographe avec qui il prend son café à la fin et qui dit non, je pourrais aller faire fortune dans des entreprises et tout ça, mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'enseignement. Alors, ça m'a un peu surpris de ne pas vouloir faire fortune quand on est enseignant, mais enfin, je partage ça aussi. Et puis, il y a le portrait d'un agent.
Vous étiez enseignant et vous
n'avez pas fait fortune. Oui, absolument. Ça peut paraître surprenant, mais finalement, je trouve que c'est assez partagé, finalement, ce sentiment. Et puis, alors, il y a le portrait d'un agent du fisc qui démissionne à la fin du livre, d'ailleurs, d'origine arménienne. Et alors, il le décrit en disant en particulier qu'il découvre qu'il a des tatouages d'icônes orthodoxe sur les bras. Le personnage est totalement allumé. Et donc, c'est aussi une espèce de génie alors, de la justice et de l'informatique. Donc, un livre passionnant, ouais. Quelquefois un peu fastidieux, on se ouais. perd dans quelques détails, mais passionnant bon. Et véritablement... qui apporte beaucoup d'informations.
Christian, est-ce que vous avez été emballé par...
Globalement, oui, c'est un récit d'enquête. Le journaliste, il s'est rapproché de gens du FBI et de l'IRS, hein, le fisc américain, ouais. et il nous décrit ces enquêtes absolument fabuleuses contre ce monde du darknet, des crypto-monnaies, mais vraiment le côté vraiment dark, hein, pas le côté légitime. Le livre est assez épais, assez dense, pourtant il n'y a que 3 ou 4 histoires. Donc, comme l'a dit Jean-Marc, on va très très loin dans le détail de chaque histoire. C'est la seule critique que je ferais, c'est que j'aurais bien passé moi, un petit peu moins de temps sur des détails, mais comme il était au cœur, le journaliste, c'est qu'il a vraiment suivi ça de près, il a voulu tout nous raconter. Mais ce qu'il nous raconte est absolument fabuleux. Alors, c'est des histoires, même sans des spécialistes, on les connaît, Silk Road, on a entendu déjà Mt. Gox, la faillite, AlphaGo, enfin, c'est des noms qu'on a entendus, et là, on se retrouve vraiment au cœur de l'enquête. Je dis qu'il y a des moments où il y a trop de détails, où on s'embête, mais quand ils ont réussi à traquer les gens, à savoir où ils sont et qu'ils vont les arrêter physiquement, je défie n'importe quel lecteur ou lectrice de lâcher le bouquin à ce moment-là. C'est absolument impossible. On va absolument savoir ce qui s'est passé jusqu'au bout. Il y a un sens du récit qui est vraiment là. Moi, je retire, bon, au-delà de l'anecdote et des histoires, moi, je retire quand même une leçon qui est quand même, que je trouve plutôt rassurante, c'est que même blockchain après blockchain, vous pouvez toujours retrouver les gens. L'anonymat n'est pas garanti dans le monde des crypto-actifs, y compris quand vous enchaînez les blockchains les plus compliqués possibles. Et même, non seulement on peut retrouver les gens, mais on peut retrouver l'argent. Parce que nos enquêteurs, ils finissent par retrouver l'argent. Alors, comme l'a dit Jean-Marc, moi, c'est juste la fin, vous savez, la conclusion, c'est un peu que sont-ils devenus, tous ces personnages. Ouais. Et vous en avez quand même beaucoup qui travaillaient pour le procureur, cet agent du fisc, des spécialistes, sont devenus spécialistes, en fait, du sujet. Alors, ils sont chez Binance, ils sont chez Coinbase, ils sont tous passés de l'autre côté. Il y en a même un qui a créé son fonds spéculatif sur les crypto-monnaies. Donc, ça, c'est le point le moins rassurant qui vient en conclusion. Mais pour l'ensemble, si vous êtes passionné des crypto-actifs, il faut absolument vous jeter sur ce livre. Les détails ne vous embêteront pas et vous passerez un excellent moment.
Ah oui, ce que je recommande pour rebondir sur ce que vient de dire Christian, c'est la descente de la police dans la bibliothèque de San Francisco au rayon science-fiction. C'est un grand moment. On arrête un des personnages clés. Effectivement, on lit ça à 2h du matin. On est encore collé au truc.
Bon, Christian, il faudra bientôt rajouter un chapitre à votre livre sur les grandes escroqueries, non ?
Ouais, c'est plutôt des criminels, ceux-là.
Ouais,
c'est pas des escrocs à qui vous apportez vous-même votre argent, vous le volez.
Bien, eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite maintenant avec notre bibliothécaire Alexandra Paget, à la recherche du temps perdu.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain.
Chère Alexandra qui est journaliste à BFM Business, vous avez décidé de vous attaquer à un monument de la littérature française par sa face nord, la face économie, la face sociale. On parle de l'œuvre de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Pourquoi vous avez choisi de nous en parler cette semaine ?
Parce que c'est l'anniversaire des 100 ans de sa mort à Marcel Proust. C'était le 18 novembre dernier et que j'y ai en ce moment même une exposition à la BNF et à l'ancien domicile du prix Goncourt de 1919, donc Marcel Proust, sur le boulevard Haussmann à Paris, Emmanuel. Et c'est l'ancien siège du CIC. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, parce que justement, c'est très symbolique de l'œuvre de Proust, cette position géographique et cet appartement qui est maintenant dans une banque.
Alors, les 7 volumes d'À la recherche du temps perdu, finalement, c'est aussi une œuvre d'économiste et de sociologue.
Alors, dans le sens où c'est une fresque, c'est pas Zola, hein, c'est pas la peinture d'un peuple opprimé et miséreux, c'est l'inverse. C'est la peinture d'une haute société, celle du début du 20e siècle, qui est spectatrice et actrice de premier plan des grandes mutations économiques, justement, financières et sociales de l'entre-deux-siècles. Une société que Proust, en fait, décrit avec une précision presque anthropologique. Si vous avez lu Proust, vous vous souvenez de...
Pas du tout.
Alors, si vous ne l'avez pas lu...
J'ai jamais réussi, je vous le dis franchement. Je n'ai aucune honte à avouer que je n'ai jamais réussi à rentrer dans Marcel Proust. Donc, je suis très content que vous l'ayez lu pour nous.
C'est au moins le mérite du naturel et de la vérité. C'est assez compliqué à lire, c'est vrai, Proust. Et ça vous tombe assez facilement des mains,
alors,
c'est vrai aussi.
Il nous décrit une société en pleine mutation.
Mais justement, c'est parce que c'est un œil d'anthropologue que ça devient très très intéressant. Si vous le voyez comme ça, et j'espère que vous le verrez comme ça dorénavant après cette chronique, la société mondaine de l'époque témoigne en effet d'une ascension et d'une chute. C'est-à-dire l'ascension de la bourgeoisie, donc avec notamment le salon de Madame Verdurin, ouais. La chute de l'aristocratie avec les Guermantes qui sont en perte de vitesse. Et tout ce beau monde se croise dans les salons décrits par Proust qui dressent en fait un portrait des principaux mécanismes de la première mondialisation libérale moderne avec le développement des bourses de valeurs et des pratiques spéculatives. Proust évoque les consolidés anglais et les 4% russes et l'action nominative de la Compagnie des Eaux dans Du côté de chez Swann ou les actions du canal de Suez et de la Royal Dutch dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Il traduit ainsi l'accélération des investissements dans les services comme les banques, les transports, les distributions de gaz et d'eau. Bref, l'avènement d'une société bourgeoise, industrielle et qui...
Mais sachant...
Spéculative.
Ouais, mais sachant que ces deux classes sociales, finalement, finissent quand même par avoir des liens, se rejoindre, ce qui n'était pas le cas avant.
Alors, c'est toute la beauté de l'œuvre de Proust que vous allez donc lire maintenant. Donc, en l'occurrence...
Encore moins depuis que vous me l'aurez expliqué.
Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, durant cette période charnière, on voit la société des Verdurins, donc des bourgeois, des petits bourgeois, des bourgeois qui deviennent de grands bourgeois, se mêler petit à petit à l'aristocratie finissante. C'est-à-dire que c'est un pouvoir de l'argent et non plus de la terre. Et ces deux-là sont amenés, et c'est ce que décrit Proust, sont amenés à se coopter et à se marier, parce que ça passe beaucoup par le mariage, évidemment, pour que, un, l'aristocratie ne perde pas totalement de son lustre, et que, deux, la bourgeoisie qui boursicote, la bourgeoisie qui dépense de l'argent de façon spéculative et qui fait fonctionner la société, leur permette acquiert un lustre.
Et, en bref, Alexandra, est-ce que finalement c'est un regard plutôt complaisant ou un regard plutôt critique sur la société de son époque ?
Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Proust n'est pas complaisant dans À la recherche du temps perdu. En fait, il y a l'hôtel de Balbec d'un côté, donc le côté noble, aristocrate, de l'autre côté la maison de passe de Jupien, qui constituent les deux faces de la mondanité de l'époque, mais où il décrit, lui, l'assouvissement des désirs qui joue un rôle structurant. Et ce que décrit Proust, et là où il est critique, c'est qu'il met en scène l'utilisation de l'argent pour parvenir à la satisfaction de ses désirs, y compris les plus triviaux, parce que c'est un monde de demi-mondaine, d'aristocrates de demi-mondaine, etc. Et là, ce qu'il dit, c'est là où avant, les désirs et les plaisirs les plus triviaux étaient réservés à une aristocratie, si, c'est maintenant le pouvoir de l'argent qui permet d'y acquérir. Donc, en fait, c'est un démocrate.
Eh ben, c'est la conclusion. Très belle conclusion, Alexandra. Merci beaucoup. On retrouve tout de suite notre Globetrotter, qui lui aussi est à la recherche du temps perdu dans le monde entier avec toutes ses belles études. Benaouda Abdelhaïm, tout de suite.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Cher Benaouda, bonjour.
Bonjour.
On commence notre tour du monde par les États-Unis. Comment surmonter la marque Parti démocrate américain ?
Alors, les démocrates américains, comme chacun le sait, ont fait mieux que prévu aux élections de mi-mandat. Ils sont parvenus à conserver le Sénat sur le fil, mais perdu la Chambre des représentants, sans être balayés, même loin de là. Pourtant, peu avant le scrutin, deux analystes du centre Third Way à Washington, proche de la formation de Joe Biden, prévenait que même en cas de victoire, il ne faudrait pas se leurrer, ce serait malgré le parti et non grâce à lui. Alisa Astro et Lenny Erickson ont piloté une enquête auprès d'un échantillon de l'électorat en surpondérant celui des États dits pivots, fondamentaux dans le système électoral américain. L'objet était de connaître leur perception du traitement des priorités des électeurs par ce parti. Alors il en ressort de très lourds reproches, de déconnexion. Vous ne vous concentrez pas sur les problèmes qui nous préoccupent réellement. Et c'est le thème de l'inflation et de son lien avec l'activité économique qu'il place largement en tête, quelles que soient les combinaisons de choix.
Or, les Républicains obtiennent sur ce point un très net avantage. Une majorité redoute qu'en laissant les deux chambres à ces démocrates, cela n'alimente la hausse des prix, ce qui n'a pas été le cas. Mais ce qui ressort d'encore plus notable, c'est une double accusation de déconnexion idéologique et des valeurs fondamentales de l'Amérique. Et il y en a une notamment où l'écart se creuse par rapport aux Républicains, c'est celle de l'opiniâtreté au travail, pour ainsi dire, ce qui constitue les fondements du mythe du rêve américain. Les deux analystes plaident dès lors pour un recentrage du parti en remettant en exergue, je cite, le patriotisme et la valorisation du travail acharné. Leur conclusion est que sans cette réorientation perceptible dans les deux années qui viennent quant à ces deux points, le patriotisme et le travail, la marque démocrate sera elle-même en jeu à l'échéance de 2024.
On évoque maintenant l'impact du changement climatique sur l'Égypte, Ben Aouda, Égypte qui accueillait la dernière COP27.
Oui, nous avons ici un travail de recherche publié au début du mois, donc juste avant cette COP27 de Sharm el-Sheikh, par une revue académique de l'État hôte. L'auteur est un expert égyptien auprès de la Convention cadre des Nations Unies sur le sujet. Saber Othman part déjà du constat que son pays est parmi ceux qui, en proportion, reste l'un des moins émetteurs de gaz à effet de serre. Nous passerons sur l'ensemble des explications techniques de ce phénomène. Mais si la politique climatique de l'Égypte, nous dit-il, se situe dans la moyenne, la performance dans les énergies renouvelables se révèle encore très basse. Une amplification et une accélération s'imposent, d'après l'auteur. Il donne des perspectives très inquiétantes concernant son pays. Intensification des événements météorologiques, violents, élévation du niveau de la mer sur les zones côtières, augmentation du taux de désertification, tout ceci va affecter la qualité des terres agricoles, détériorer la production agricole et donc porter atteinte à la sécurité alimentaire de la nation africaine qui compte la troisième population du continent. Une incertitude croissante aussi sur le débit du Nil qui rend les prévisions de plus en plus difficiles et les effets sur le tourisme aussi qui sont à redouter. Un poste très important, rappelons-le, et comme chacun sait, des recettes en devise de l'Égypte. Et les installations touristiques qui risquent d'être affectées sur les côtes, c'est très bien décrit. Ce qui ne représentera qu'un aspect de la fragilisation globale des infrastructures, bâtiments, routes, zones industrielles. Mais rien n'est encore inéluctable si l'on suit cet expert égyptien. Il y a ensuite toute une partie sur les politiques à mettre en œuvre pour faire face à une stratégie intégrée d'économie verte, dit-il. Et ça passe aussi par des outils de financement innovants. Un travail très intéressant de ce sujet.
Passionnant. Et enfin, Ben Aouda, une étude qui s'intéresse finalement au statut d'usine du monde de la Chine. Et est-ce qu'il y a un pays ou plusieurs pays qui contestent aujourd'hui ce statut d'usine du monde, Ben Aouda?
Alors, c'est le travail d'un économiste chinois. Il est chercheur de l'Institut économique mondial de l'Académie des sciences sociales à Pékin.
Ouais.
C'est un confrère chinois, d'ailleurs, qui nous a dit qu'il est bien connu dans le débat public national. Et il identifie trois pays, Vietnam, Inde, Mexique. Alors, Su Chi-Yuan entame sa réflexion par le Mexique. Et ses atouts, à commencer par ceux de sa géographie, le traité de libre-échange de l'Amérique du Nord. Mais l'auteur estime que c'est une économie qui ne parvient pas, l'économie mexicaine, à se débarrasser de son modèle de développement inhérent au piège du revenu intermédiaire. Donc, somme toute, pas grande inquiétude concernant le Mexique. Alors, le Vietnam, pour sa part, lui, là, il présente davantage d'atouts,
ouais.
Évidents, je cite même. Et cet auteur rend un hommage à un processus historique de réforme économique accéléré, avec en 5 ans seulement une multiplication des accords commerciaux. Il relève celui notamment qui a été conclu entre le Vietnam et l'Union européenne. Mais là aussi, rien qui soit en fait en mesure de contester la surpuissance industrielle de la Chine, d'autant que le Vietnam se concentre sur la fabrication légère, c'est très bien expliqué, et ne développe pas suffisamment ses capacités dans l'industrie lourde, notamment dans la chimie. Et surtout, ce pays manque cruellement, je cite, d'entreprises locales de classe mondiale. Quand la Chine, elle, en compte 143 dans le classement américain Fortune 500, et puis une grande part des investissements directs étrangers au Vietnam proviennent de Chine. Donc la Chine est une zone tampon, il emploie plusieurs repris cette terminologie. Quant à l'Inde, c'est là où le potentiel est le plus substantiel, et il n'y a pas que la taille du marché. Il insiste sur les fortes capacités indiennes de recherche et développement, et d'essor de groupes de dimension mondiale. L'économie chinoise isole toutefois un handicap qui, à ses yeux, est tout à fait majeur, les facteurs de dissensions religieuses et culturelles en Inde qui entravent l'ouverture, sans compter ceux quantifiables, notamment les coûts de transport nettement plus élevés que ceux en Asie du Sud-Est. En définitive, la Chine ne devrait se concentrer que sur son propre processus d'ouverture, dit-il, tout en renforçant les liens avec les zones tampons, le Vietnam au premier chef.
Et en ayant peur de pas grand monde, finalement.
Et même de personne.
Merci beaucoup, Ben Aouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ?
Alors, je recommande la lecture d'une revue, non pas ce numéro-là, mais d'une façon générale, cette revue aurait pu être lue par Proust, puisqu'elle existe depuis 1894.
Ah là 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 là.
C'est la revue politique et parlementaire, et donc son dernier numéro est consacré à la liberté, et je pense que c'est un sujet qui est plus que jamais d'actualité, et donc d'autant plus que le titre, c'est « Aimons-nous encore la liberté ?» Alors, il y a de multiples contributions, et ça va un peu à la fois sur le champ politique, juridique, écologique, économique.
Philosophique aussi.
Philosophique, et donc c'est une série de textes tout à fait estimables dont je recommande la lecture.
Parfait. Christian ?
Ouais, une belle étude du Center for Economic Performance, la London School of Economics, sur la montée en puissance technologique de la Chine, et qui nous montre que la Chine dépose de plus en plus de brevets, plus d'un tiers au niveau mondial, mais le nombre de brevets ne suffit pas. Est-ce que ce sont des brevets de qualité ? Oui. Est-ce que ce sont des brevets innovants, c'est-à-dire repris par d'autres ? Oui aussi. Le papier est un peu désespérant pour nous, Européens, parce qu'il montre que les États-Unis sont très très au-dessus de tout le monde, que la Chine a rattrapé l'Europe et est en train de la dépasser, l'Europe est en train d'être marginalisée au plan mondial, sur le plan technologique. Une étude pas trop longue, en anglais, mais très lisible.
Et un peu déprimante pour nous. Européen, bah moi écoutez, je termine avec ce livre de Sylvain Bersinger. Sylvain, il est économiste chez Asterès. Il avait déjà publié Les Entrepreneurs.
Absolument.
Deux légendes dont vous aviez parlé.
Deux volumes.
On a parlé du premier, on en a dit bien.
Chez Henrik B. Édition. Eh bien, il continue sa série avec cette fois-ci Les Entrepreneuses de légende, parties de rien. Elles ont fondé des empires. Alors, il y a une vingtaine de portraits, effectivement. Pas tant que ça de françaises, mais vous retrouverez les extraordinaires histoires d'Elena Rubinstein, Coco Chanel, Margaret Rudkin ou Joy Mangano. J'ai adoré, moi, l'histoire de la chinoise Zhong Huijuan, qui est une entrepreneuse chinoise qui est devenue plus riche que son mari. Très bon livre, et puis très belles histoires, puisqu'on vous a raconté des très belles histoires tout au long de cette librairie. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, évidemment, bonne lecture.